Les masques tombent sur RCN.
Eh bien bonjour, bonjour fidèles auditeurs de RCN, la radio du plateau de Haye à Nancy sur 90.7, à ne pas oublier comme fréquence, et plein d'autres supports aussi. Facebook, enfin bref, on vous laisse chercher. Donc aujourd'hui c'est Françoise, c'est-à-dire moi aux commandes, avec pour invité prestigieux, comme le sont tous mes invités d'ailleurs, des représentants de la Cité du Fer à Jarville. Donc je vais déjà vous saluer, bonjour Monique.
Bonjour.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Voilà, alors attention, attention, pour les vieux nancéens, il y avait dans le temps un truc qui s'appelait le Musée du Fer, à Jarville effectivement, du Fer, F-E-R, qui actuellement s'appelle le Féru de Sciences, parce qu'ils ont trouvé que c'était quand même plus funky que le Musée du Fer et des locomotives, même si c'était intéressant. Et là, on va donc interviewer aujourd'hui et recevoir la Cité du Fer, F-A-I-R-E, à Jarville, et dont on va parler. Attention donc, la Cité du Fer, et non pas le Musée du Fer. Donc, eh bien, je redis bonjour à mes deux invités, Monique Manoa et Simon André. Donc, qui êtes-vous? Et vous êtes venus nous parler de quoi? À vous la parole.
Alors, bah, je vais commencer. Bonjour à tous, Monique Manoa. Du coup, moi, je suis chargée de développement de ce gros projet qu'est la Cité du Fer. Je suis arrivée dans l'histoire en 2022, à l'automne 2022, alors que le projet venait d'être labellisé Manufacture de Proximité dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'État. On fait partie des dernières manufactures de proximité. On est 100 à l'échelle nationale à avoir été labellisé.
C'est pas une initiative locale alors?
Alors si, c'est une initiative locale,
enfin, unique,
mais,
je dirais, local,
mais du coup qui nous a permis de bénéficier de ce label national. Et du coup, l'objectif du projet, c'était de relocaliser de la production en cœur de métropole, et on a trois grands axes de travail. Le premier, c'est un pôle recyclerie créative qui est porté par l'association La Bonne Idée. Je crois que vous les avez eus,
on
a invité dans cette émission. Donc eux, ils sont en chantier d'insertion, enfin ils développent plein de choses, ils innovent tout le temps. Donc cet été, ils ont ouvert un pôle matériothèque. Donc ça, c'est notre premier pôle. On a un deuxième pôle métier d'art. Aujourd'hui, c'est 24 entreprises qui sont installées, ce sera bientôt 27, qui représentent 19 métiers de la liste officielle des métiers d'art. Qui parle de 280 métiers. Voilà, nous, c'est... Donc, on a un pôle bois avec des menuisiers, des ébénistes, des menuisiers en siège, un pôle matériaux souples avec des maroquiniers, tapissiers d'ameublement, brodeurs, un pôle céramique, un pôle verre. Simon, qui est là avec nous aujourd'hui, il est dans le pôle métal. Il y a des bijoutiers, joailliers, des marketeurs, enfin, voilà.
Ah, d'accord. Moi, je connaissais pas du tout. C'est un tiers lieu.
C'est un tiers-lieu.
C'est un lieu de partage.
C'est
un tiers-lieu, c'est un endroit où on partage des choses et où des gens apportent chacun leurs compétences. Mais je ne savais pas que, comme la manufacture de proximité, c'est des métiers identifiés pour
oui,
les métisanats d'art. C'est pas n'importe qui, avec tout le respect que je dois aux gens. Hein.
Non, nous, on a fait le choix d'être un tiers-lieu très, très carré, très orienté. Il peut y avoir des tiers-lieux beaucoup plus généralistes. Nous, le projet, c'était vraiment dédié au métier de la main et tout particulièrement au métier d'art. Alors, pourquoi évidemment, parce que les porteurs de projet, on est issus des métiers d'art, donc on défend notre petit précaré, mais aussi parce qu'il y a des besoins spécifiques. Et il faut imaginer que les métiers d'art sont des métiers ancestraux, mais n'existent légalement que depuis 2014. C'est la loi sur l'économie sociale et des solidaires de 2014 qui va enfin nous donner une existence juridique. Avant ça, on n'a pas de définition. À l'époque, donc c'est tout récent, hein, 2014, c'était
Oui,
il y a une dizaine d'années.
Elle
donc
est douce,
c'est vraiment... hier. Ça nous a permis aussi d'avoir des ministères de tutelle. Donc aujourd'hui, on est les métiers d'art sont sous la tutelle de deux ministères, le ministère de l'économie et le ministère de la culture.
Je vais apporter une précision parce que dans cette Cité du Fer, ça s'adresse à des professionnels. Le public comme moi, par exemple, ne peut pas rentrer à n'importe quand. Donc on va travailler, je vais vous interviewer sur qui vous êtes, comment vous travaillez ensemble, qui est-ce qui peut postuler, et ça s'adresse moins au public qui ne peut pas venir vous voir directement.
Que certains de nos... Alors, nous, en fait, pour être le plus représentatif possible de ce que sont les métiers d'art, on a une diversité de métiers. Donc aujourd'hui, c'est 19, avec les nouveaux entrants qui vont arriver dans les semaines qui viennent. On va passer à 21 métiers représentés dans le lieu. Et après, on a plein de statuts juridiques possibles. Ça va de SARL à Maison des Artistes, en passant par entreprise individuelle, coopérative d'activité et d'emploi, voilà.
Chaque entreprise a son statut, c'est
tout
ça,
à fait,
c'est ça.
Tout à fait.
D'accord.
La Cité du Phare, du coup, elle ne s'adresse qu'à des professionnels, avec des statuts multiples. Ça peut être une société du type SARL, on en a une, mais ça peut être aussi des artistes individuels, et là ils ont un statut d'artiste auprès de la Maison des Artistes. La Cité du Fer n'a pour client, on va dire, que les professionnels à qui elle fournit des locaux d'activité.
D'accord.
Et des services. Voilà. Mais après, dans nos résidents métiers d'art, ils ont aussi plein de modèles de diffusion de leur travail. Donc, certains ne vont travailler que pour des particuliers sur de la prestation. Simon, je pense que c'est ton cas, mais tu en parleras après.
Ouais.
Mais on va avoir aussi des gens qui vont faire de la prestation uniquement pour les professionnels. Je pense par exemple à une de nos maroquinières qui est par ailleurs guénier et qui travaille essentiellement pour des grandes maisons ou pour des designers. Et elle n'a pas de clientèle privée particulière. Elle partage son espace avec une maroquinière qui, elle, fait de la petite maroquinerie et qui n'a qu'une clientèle privée. Donc, il y a quand même des gens qui rentrent puisqu'ils vont prendre rendez-vous avec les artisans qui sont chez nous et qui, pour qui ils vont travailler.
Parce que c'est de l'artisanat, donc ce sont des artisans. Effectivement, vous ne travaillez pas pour la gloire, vous travaillez pour vendre, pour avoir des prestations, donc vous avez des clients. Forcément, vous donnez des rendez-vous sur votre lieu de travail.
En fait, il faut s'imaginer, c'est comme une entreprise, donc on n'a pas forcément accès à l'entreprise. Par contre, on peut, dans le cadre de l'activité, être amené à accueillir du client qui va venir.
Si vous étiez installé dans un atelier au centre-ville ou dans
exactement,
une rue quelconque,
mais en temps normal, pour pas, j'imagine, c'est ça le principal intérêt, pour pas perturber le travail des uns et des autres, il y a un choix volontaire de pas être un lieu ouvert au public pour être un peu objet de curiosité et ouverture qui pourrait perturber le travail quotidien des artisans.
Donc c'est comme un Waves, on va dire ça, excusez-moi, c'est comme un Waves ou la Galerie Saint-Sébastien, où il y a plein d'ateliers qui sont en lien, effectivement, enfin voilà, je le compare à quelque
sauf
chose
qu'on
de
qu'on n'est effectivement pas ouvert au public.
Pas ouvert au public, et vraiment, mais vous
et
êtes
là,
plein d'individus.
Et là, le choix, il est très précis, c'est qu'on sait qu'on est sur des métiers attirants, les gens ont envie de voir travailler un artisan. Sauf que moi, je ne fais jamais visiter mon bureau, je pense que vous non plus. Ça serait très pénible au bout d'un moment. Bah, c'est pareil pour eux, en fait. L'idée, c'est de protéger leur lieu de production, mais aussi de sécuriser leur pratique. Certains qui travaillent pour des grandes maisons, c'est aussi protéger ce qu'ils sont en train de faire, hein, parce qu'ils ont des contrats d'exclusivité. Ou en tout cas
du secret professionnel, du secret de fabrication. Non, mais ça
pas trop de fabrication, mais plus d'esthétique.
Oui, d'esthétique. Mais voilà. D'accord, ok. Oui, mais il faut des rendez-vous. D'accord, ok. Donc, vous allez livrer quoi?
Alors, je me présente rapidement. Comme Monique l'a dit, je suis un des 24 résidents de la Cité du Fer. Je travaille FER, justement, parce que je suis forgeron métallier. Donc, je travaille le fer à chaud et à froid.
Et vous vous appelez?
Je m'appelle Simon André.
Simon de prénom.
Simon le prénom et André le nom de famille.
Si les gens veulent vous trouver.
Alors, si on veut me trouver, c'est sur Instagram principalement. Comme beaucoup les métiers d'art, c'est une plateforme qui marche. Sinon, sur le site internet de la Cité du Fer qui récapitule tous les artisans qui sont résidents de la Cité du Fer.
Et alors, donc vous êtes forgeron d'art,
c'est ça, forgeron. C'est ça. Alors, le nom officiel, c'est forgeron d'art pour des raisons, comme Monique l'a expliqué, qu'en France, on aime bien mettre des étiquettes, on aime bien mettre dans des cases. Après, je préfère dire forgeron.
C'est quoi la différence entre un ferronnier et un forgeron?
Il n'y en a aucune.
Ah bon?
C'est uniquement une étiquette qu'on a mis et on a décidé d'appeler ça. Le diplôme que j'ai passé, c'est un CAP ferronnerie d'art. Pardon. Mais dans le langage courant, forgeron, c'est ce qui s'adapte le mieux à mon métier.
Et vous faites quoi comme pièce? Alors, des petites, des grosses, des moyennes?
Alors, je fais principalement du petit mobilier. Donc, table, chaise, tabouret. En ce moment, je développe un des petits secrets que je peux vous livrer. Je développe toute une thématique autour de la carte, donc la cartographie géographique. qui est une source d'inspiration. Et sinon, aussi, parce que le métier fait que c'est une grande demande, je fais aussi tout ce qu'on appelle du second œuvre, donc garde-corps, escalier, rambarde, marquise.
Ah, j'ai déjà vu comme ça des escaliers, mais de fou, quoi. Des trucs absolument monstrueux. Je connais des ferronniers d'art, effectivement. Si on veut un bel escalier, ça change de l'escalier en bois traditionnel.
À Nancy, on a quand même cette grande chance d'avoir un patrimoine assez riche, notamment avec l'art nouveau et l'art déco, sur le travail du fer, du bois. Et c'est vrai qu'il y a cette filiation aussi dans la création de la cité du fer qui se veut être le prolongement de ce qui se faisait au siècle dernier, où il y avait vraiment un regroupement des savoir-faire et des techniques à travers la matière et cette vocation de faire du beau et de l'artistique.
Et dans la ligne, même si jamais c'est moderne, il ne faut pas reprendre les concepts et les images, effectivement, avec la nature par-dessus tout. Mais donc, et vous arrivez à travailler avec, je dirais vos collègues, je ne sais pas quoi, avec d'autres résidents, vous avez des projets croisés?
Alors, pour l'instant, je ne peux pas avoir le recul nécessaire parce que ça ne fait que depuis août que je suis là, mais clairement, il y a une synergie qui est assez forte. Je sais que certains artisans sont regroupés, notamment bijoutières, céramistes, verrières.
Il y a déjà eu on est en face de gens qui aiment profondément leur métier, qui aiment profondément les matières qu'ils travaillent et qui sont aussi très curieux, du coup, des métiers des autres. Voilà. Donc, ça circule beaucoup d'un atelier à un autre. J'ai envie de dire que là, moi, de mon point de vue, ça m'échappe complètement. Des fois, je découvre des choses qui se sont faites, et tant mieux que ça m'échappe. Mais oui, évidemment, il y a des coopérations qui se mettent en place. Il y a des croisements de matières. Je me souviens d'une anecdote comme ça. Il y a le bureau de broderie qui est arrivé avec des machines à broder qu'on appelle les Corneli, qui sont des machines du 19e, qui sont quasiment plus usitées aujourd'hui, sauf dans la haute couture. Ils ont fait une démonstration et là, c'est parti dans tous les sens. Il y a la marketeur qui a été chercher des plaques de marqueterie pour voir si on pouvait broder dessus. La maroquinière qui est partie chercher du cuir pour voir si on pouvait broder dessus. Et voilà, c'était parti parce que, oui, il y a toute cette possibilité de l'expérimentation qui est intéressante.
Et puis, il y a les rencontres fortuites, j'imagine. On se croise dans un couloir et puis du coup, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui naissent devant les machines à café ou en partageant le pain et le sel.
Oui, nous, c'est l'espace cuisine.
L'espace cuisine, le pain et le sel, c'est ce que je disais. Effectivement, ça a du sens.
Et même le lieu en lui-même, comment il est physiquement installé, c'est vrai qu'il y a une grande halle où il y a principalement les artisans qui ont leur atelier là et qui est assez ouverte parce que c'est des portes-fenêtres. Donc on se voit, il y a aussi des interactions quand on voit quelqu'un travailler d'une certaine façon. Même si on travaille des matériaux différents, on est quand même animé par la même chose, une curiosité assez forte. Et c'est vrai que il y a beaucoup de synergies qui se font comme ça parce que les techniques sont similaires, parce que les intérêts se rencontrent. Et clairement, pour un exemple assez concret, pour le cas d'une création que je suis en train de faire, une table basse, je fais un plateau de bois. Initialement, je ne suis pas du tout de ce matériau-là.
Mais la ferronnerie sur le bois, je ne connais
Alors,
pas bien.
ça marche très bien. Je vous laisserai voir le résultat final. Mais clairement, c'est là où il y a un intérêt pour moi évident d'être dans un lieu comme la Cité du Fer. C'est qu'il y a 7 personnes qui travaillent actuellement le bois à la Cité du Fer, qui sont des professionnels qui sont complètement compétents là-dessus. J'ai un doute, j'ai besoin d'avoir une information, j'ai besoin d'avoir le prêt d'une machine. Je vais à l'atelier d'à côté, je toque, je demande si je dérange. Non, est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder? Et puis, généralement, ça dure toujours un peu plus que 5 minutes. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, j'ai les informations que je veux. Je peux avancer. Ah, toi, tu fais comme ça. Ah oui, j'avais pas pensé à cette technique. Ah, effectivement. Et de fil en aiguille, ça fait effet boule de neige et ça fait une force créatrice assez, assez puissante.
C'est un lieu de rencontre, mais de rencontre créative. Quoi. Pas uniquement de peut-être partager le quotidien. Du coup, ça répond à ce que vous avez dit, promouvoir le savoir-faire et l'innovation locale. Quand on croise d'autres métiers, qu'on sort de son atelier tout seul, ça doit donner des trucs
Oui, c'est ça. Il y a des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Alors là, Simon raconte l'accompagnement sur lui apprendre un nouveau savoir-faire, mais ça peut être aussi sous-traité, se faire prêter du matériel. Je pense à... Giuseppe, qui est restaurateur du patrimoine, qui travaille que pour une clientèle publique, hein, il fait de la restauration pour beaucoup, pour des églises, pour des abbayes, etc. Il n'y a pas longtemps, il avait besoin d'une colle, d'une machine pour coller à l'UV. C'est ce qu'on a, en fait, c'est pour coller du verre. Donc, c'est très spécifique. À louer, il faut se déplacer, etc. Là, il a passé l'info et évidemment, quelqu'un dans le lieu avait une colle à UV et lui a livré dans son espace en 5 minutes. Et tout ça, c'est que bénéfique, en fait. Parce que
la mutualisation, enfin, vous prenez une convaincue.
La Cité du Fer est propriétaire d'un certain nombre de parcs de machines. C'est aussi pour simplifier l'installation et le démarrage d'activité. Aujourd'hui, avec la matériothèque à côté, à la Bénidée, en fait, il y a des gens qui traversent tous les jours le bâtiment pour aller chercher du cuir, du textile, du cordage. Enfin, je pense que vraiment, l'idée pour nous, c'était d'avoir un écosystème le plus vertueux possible et le plus favorisant possible. Donc, voilà.
On va faire notre pause musicale, syndicale. Alors, je le dis comme c'est bientôt mon anniversaire. Moi, j'ai choisi Yves Jamais, la fleur de l'âge, qui parle des femmes avec un peu d'âge. Donc, de moi.
Ne me dites pas qu'à peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. Le temps qu'il a mis à figer sur son regard quelques ridules. D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule. Et sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents qui font que le regard qu'on pose sur elle nous semble vite indécent. La facilité qu'une jupe a de se lever me ravit. Mais voilà, je ne suis pas dupe de ces fausses facéties. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle. Glacés à peine au sortir de l'enfance, viennent tout juste éveiller le plus sensible de mes sens. Elles ont pourtant la proie habile dans le refus d'être des mômes et trompent les yeux les plus subtils de leur sensualité fantôme. Mais être une femme suppose de tout autres arguments que ceux que ces filles exposent inexorablement. Si ton corps calme cette jupe, c'est mon regard que tu ravis, mon âme que tu préoccupes, et mon corps qui crie merci. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle.
RCN, les masques tombent.
Merci Yves Jamais de rendre hommage aux femmes et de leur dire qu'elles sont belles. Eh ben, on va continuer donc avec mes invités Simon André et Monique Manoa de la Cité du Fer et Faillère à Jarville, en Meurthe-et-Moselle. Donc, j'ai bien compris que c'était qu'il y a plein de gens, plein de sociétés. Donc, il doit y avoir un état d'esprit. Comment vous recrutez? Comment ça se passe? Différents, voilà. Dites-moi tout ça.
Alors, nous, le projet, il est né d'abord d'un gros travail d'analyse du territoire Grand Est.
Ah, ça, c'est bien.
Territoire qui, traditionnellement, est très implanté dans les métiers d'art. On a une grande filière du bois dans les Vosges.
Le verre,
le cristal, le cerfave à Vannes-le-Châtel. Enfin, c'est historiquement très important. Une des seules écoles européennes de vannerie dans la Marne, la lutherie à Mirecourt, enfin voilà, la faïence. Et autour de ça, du coup, il y a beaucoup de centres de formation. Aujourd'hui, c'est 65 centres de formation en région Grand Est qui donnent des diplômes liés au métier d'art. Je crois que c'est 130 et quelques diplômes différents qui sont faits. Donc,
nationalement et 65 dans l'Est?
Non. C'est 65 centres de formation en région Grand Est. Et en région Grand Est, c'est plus de 130 diplômes liés au métier d'art. Non, c'est vraiment très, très fort. On est la deuxième région de France après la région parisienne sur les métiers d'art. Pour l'anecdote aussi, il semble important de préciser que pour la première fois depuis un an, on a eu une étude économique sur le poids des métiers d'art dans l'économie nationale et on pèse plus que le système de l'écosystème de la pharmacie.
Punaise, ben ça me fait chaud au cœur.
Eh ben oui, parce qu'en fait, pendant très longtemps, on nous a dit « Ah oui, les métiers passion, les vieux métiers. » Non, non, on est avant tout des entrepreneurs et on ramène de la plus-value. Et on a un très haut niveau de plus-value, puisqu'en fait, ils vont transformer des matières brutes en objets de luxe. Voilà, donc nous, il y avait toute cette analyse et une région Grand Est qui investit beaucoup dans la formation à destination des métiers d'art et beaucoup dans la formation de reconversion. Et il manquait un petit chaînon qui était à quel moment on favorise l'entrepreneuriat. Comment, quand on a des jeunes diplômés, on les accompagne pour qu'ils puissent aisément devenir des entrepreneurs. Et là, on a un vrai souci qui est l'investissement. Quand vous allez voir un banquier que vous lui dites « je veux devenir ébéniste, mais j'ai besoin d'un parc de machines de 50 000 euros pour m'installer », il va vous dire bah, « en fait, je vous les prêterai quand vous m'amènerez deux exercices comptables positifs ».
Oui, je vois bien.
Vous ne pourrez pas les avoir puisque vous n'avez pas d'outils de production. Donc c'est pour ça que nous, on s'est créé et qu'on est propriétaire d'un certain parc de machines. Simon, je sais pas, tu pourrais nous dire pour un métallier combien il faut à peu près d'investissement ?
C'est à peu près l'équivalent d'un ébéniste, donc on a entre 40 et 50 000 euros.
Voilà, et nous on a un atelier équipé que en grande partie c'est notre équipement que tu utilises.
Alors principalement sur les outils que j'utilise, il y a une perceuse à colonne. Une perceuse à colonne, c'est 10 000 euros. Alors quand on commence, c'est toujours des investissements qui sont à la fois nécessaires, mais qui nécessitent quand même d'être assez réfléchis. Alors comme Monique l'a dit, la plupart des artisans à l'heure actuelle sont issus de parcours de reconversion. Donc il y a une vie avant, donc ça a permis d'avoir aussi un apport de trésorerie, mais c'est aussi des choix coûteux et des choix assez difficiles à faire quand on se lance, avec toute l'incertitude qui existe à ce moment-là. Et c'est clair que la Cité du Fer, entre autres, amène une sorte de stabilité et d'assurance dans le projet parce qu'on se sent accompagné. Ce qui est beaucoup plus compliqué dans l'entrepreneuriat, de commencer tout seul dans son garage, chez papa-maman, comme la plupart des artisans peuvent commencer au début.
Vous parliez d'escalier tout à l'heure. Pour faire un escalier, il faut le ranger en plus.
Exactement, il faut une hauteur sous plafond.
Les camions, il y a un grand parking. Enfin, ça paraît idiot, mais...
Il y a une halle avec une hauteur sous plafond, parce que quand on fait un escalier, il faut le monter ce qu'on appelle à blanc. Donc à vide, on fait une simulation avant de le rentrer chez le client, parce que ce n'est pas à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ça ne va pas. Et tout ça, ça nécessite énormément d'espace, de lieux, de machines pour faire tourner l'activité. Et clairement, mutualiser en plus, encore plus actuellement, ça paraît une évidence. Encore faut-il qu'il y ait les opportunités et les lieux qui s'offrent à nous. Et c'est vrai que la Cité du Fer, c'est une bénédiction dans ce sens-là.
Et puis vous avez quand même une légitimité, une reconnaissance, je ne sais pas comment on dit ça, effectivement, vous êtes en lien avec l'école d'archi, l'université, le rectorat, c'est quand même pas rien d'avoir cet appui.
Oui, bah en fait, on est utile aussi hein, sur le territoire. Pour poursuivre ce que disait Simon, enfin, pour nous, l'idée, c'est aussi de dire, on est sur des métiers, alors avant, c'était des métiers qui se transmettaient dans la famille, hein. On était... ferronnier de père en fils. Et du coup, quand le fils héritait de l'atelier, il héritait des clients, de l'outillage et du savoir-faire. Aujourd'hui, c'est complètement rompu. Il n'y a plus de transmission intrafamiliale de ces métiers-là. Nous, on sait qu'ils ont besoin, pour se faire connaître, de faire des salons. Aujourd'hui, faire un salon, ça coûte une fortune si vous voulez faire un salon professionnel. On est sur des prix de salon à 8-9 000 euros. Pour deux ou trois jours.
Pour exposer, c'est ça ?
Pour exposer, rencontrer sa clientèle pro. Et ça, c'est hors déplacement, logement, hébergement.
Oui, je vois bien.
Voilà. Hein. Donc, nous, on se dit, bah, en fait, au début, nous, on les aide. Ils ont des machines-outils sur place et on a plutôt envie qu'ils mettent cet argent-là dans se faire connaître, faire de la com, etc. Parce que c'est ça qui va faire que demain, ils pourront être des entrepreneurs viables. Et la pensée de notre projet, ça a été vraiment de prendre en compte tous ces facteurs-là. Quoi.
Je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais le but, c'est accompagner les talents de demain.
C'est ça.
J'ai bien aimé la phrase-là. Donc voilà.
C'est ça. En se disant que quand ils vont se développer, ils ont à un moment, il y a des freins dans le collectif. C'est super pour démarrer, mais par exemple chez nous, s'ils ont besoin à un moment de beaucoup plus produire, ça va pas être possible parce que les machines, elles sont mutualisées. D'accord. Donc, mais à ce moment-là, ils auront la maturité économique pour partir ailleurs. S'ils ont besoin à un moment de salariés, chez nous, c'est pas possible. On peut pas prendre un salarié d'entreprise.
Mais vous prenez, enfin, je coupe parce que je vois le temps qui défile. Vous prenez, il y a des stagiaires, il y a des gens en formation,
oui.
Des stagiaires.
Il y a des stagiaires. Nous, on a des contrats en tant que structure avec la région Grand Est pour préparer des parcours de formation, de reconversion. Donc, en fait, les gens se testent avant de partir en formation. Les entreprises peuvent faire le choix, elles, d'avoir des stagiaires. Dans le lieu, en ce moment, ce matin, ils étaient quatre.
Et comment on peut postuler alors un artisan d'art qui dit, tiens, j'irai bien à la Cité du Fer, on va donner les coordonnées à la fin de l'émission. Il postule comment? Il y a un état d'esprit à respecter?
Il y a un dossier à remplir. Donc voilà, le dossier est étudié. Et après, il y a un jury. Et volontairement, on a un jury qui n'est pas... on n'est pas majoritaire en tant que Cité du Fer. Sont membres du jury la Mission régionale des métiers d'art, la Chambre régionale des métiers, métiers d'art, Destination Nancy, la Métropole du Grand Nancy, Art en Réel, qui est une coopérative d'activité et d'emploi, la Ville de Jarville et nous. Donc, c'est 7 personnes. Et pour nous, c'est important, d'une part, parce que ça veut dire que la... On n'est pas un lieu de copinage, on rentre pas
oui,
parce
mais
qu'on
un,
est
je suis contente
des
de ce
copains,
que vous dites parce que c'est
on
pas
est
ça,
un vrai lieu pro. Et en plus, pour les gens qui candidatent, ça veut dire que quand ils font le jury chez nous, ils rencontrent déjà leurs futurs interlocuteurs professionnels. Donc en fait, on les aide déjà. Donc même si ils sont pas mûrs pour arriver chez nous parce que ils ont encore besoin d'approfondir des savoir-faire ou voilà, c'est pas grave. Ils ont déjà rencontré tous leurs interlocuteurs et on les verra après. Après. Un des critères pour nous importants, c'est est-ce que le collectif, ça va le faire? On n'est
oui,
pas
je vois
tous
Simon
faits
Kepin,
pour
vous êtes d'accord.
Oui, oui, là, j'approuve totalement parce qu'on parle de tous les avantages qu'il y a à rentrer. Il faut aussi savoir que, je ne vais pas dire inconvénient, le mot serait peut-être un peu trop fort.
Contrainte.
Mais effectivement, ça demande quand même un état d'esprit particulier. Il faut savoir partager. Il faut savoir aussi passer le collectif, des fois, avant l'individuel. Et il faut avoir aussi cette envie d'entreprendre à plusieurs parce que on partage le quotidien et ça nécessite souvent de se dire je ne suis pas que une entreprise, je fais partie d'un collectif. Et si on a ça en nous, ça se passe très bien la plupart du temps, mais ça demande aussi du dialogue. On a des réunions régulières avec les résidents entre nous pour faire remonter ce qui va pas. Pour pouvoir voir comment on peut améliorer. On a des représentants, comme on aurait des représentants syndicaux, on a des représentants des résidents. Et il y a un conseil d'administration à la Cité du Fer. Donc tout ça, c'est une régie collective. Et donc ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup d'intelligence. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien.
De toute façon, j'ai toujours dit à mon fils, on peut s'engueuler qu'avec les gens à qui on parle. Le chinois du bout du monde, on ne lui parle pas. Donc voilà, c'est la proximité. Moi, ça me fait plaisir de vous accueillir parce que ça donne une autre dimension que quelque chose, un atelier dans un coin qui fonctionne tout seul. Alors que là, je vois le rayonnement. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Les tutelles, les partenaires que vous avez, c'est vraiment un gros truc. Donc voilà, qui est malheureusement inaccessible à part via des salons comme
si,
le Pôle
bientôt,
du Verre.
Vous allez pouvoir venir nous voir pendant les Journées européennes des métiers d'art. Le 11-12 avril prochain, on sera ouvert au grand public.
Ah bah ça, c'est bien. Bah, on va en profiter pour donner votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc adresse, j'ai vu, dites-moi, parce que vous savez mieux que moi.
16 avenue de la Malgrange à Jarville-la-Malgrange.
Il y a un grand parking. Et en plus, vous pouvez aller à la Binidé à côté, il y a plein de choses à acheter, enfin, ou à regarder. Et le téléphone? Je l'ai.
C'est vous qui l'avez, parce que je ne le connais pas. 09 77 51 97 47. 09 77 51 97 47. Et puis sinon, vous avez toutes les infos sur notre site, lacitedufer.fr. Et c'est bien F-A-I-R-E.
Ah voilà, j'ai expliqué au début. Hein. Réécoutez l'émission au début s'il faut. Donc ben voilà, je suis contente. Ben, je suis vraiment contente de vous avoir accueilli. Ben, j'espère voir vos œuvres un jour ou l'autre, effectivement. Là, on était maintenant dans le savoir-faire. Et maintenant, il va falloir faire savoir en écoutant l'émission qui paraît donc à 13h. Et puis, ben, je vous dis au plaisir, à bientôt. Merci d'être venu, bravo.
Merci à vous. Au revoir.